Bonsoir à tous, il est 20h à Paris, 22h à Damas, et vous êtes bien sur RFI.
Véronique Rigolet.
Et à la une ce soir, l'aide humanitaire entre désormais sans entrave dans la bande de Gaza. Un peu de baume au cœur pour les Gazaouis après 15 mois d'une guerre extrêmement brutale. Reportage à suivre en début de ce journal. Le choc politique en Allemagne, pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la droite conservatrice et l'extrême droite ont adopté ensemble un texte anti-immigration au Parlement. Une alliance impardonnable, dénonce le chancelier Scholz. Le virage pro-business de l'Europe face aux annonces tonitruantes de Donald Trump. Bruxelles place désormais ses entreprises au cœur de la stratégie de relance européenne. Enfin, grande soirée foot ce soir avec la 8e et dernière journée de la première phase de la Ligue des Champions. 18 matchs en simultané avec encore beaucoup d'incertitudes sur les derniers qualifiés pour les barrages et notamment pour le PSG qui affronte Stuttgart. Et pour commencer, direction le Proche-Orient, où ça bouge à Damas, en Syrie. On vient de l'apprendre, les nouvelles autorités syriennes ont annoncé ce soir la dissolution de tous les groupes armés, ainsi que la suspension de la Constitution et la dissolution du Parlement. L'homme fort du pays, Mohamed al-Shara, a été désigné président pour une période de transition. Tous les détails, bien sûr, à venir dans nos prochaines éditions. Toujours au Proche-Orient, l'envoyé spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, est arrivé, lui, aujourd'hui en Israël. Après une rencontre avec le Premier ministre Netanyahou, eh bien, il s'est rendu dans la bande de Gaza pour se faire une idée directe de la situation sur le terrain. Avec, depuis l'accord de cessez-le-feu, le retour des déplacés gazaouis dans le nord de l'enclave, mais également avec la levée des restrictions israéliennes, eh bien, l'entrée enfin de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Reportage de Rami Almeghari avec Sami Bourlefa à Jérusalem.
Dans ce marché du centre de la bande de Gaza, la différence est notable. Avant la trêve, le kilo de poulet coûtait 85 shekels. Désormais, c'est 25 shekels. Et cette baisse a eu lieu du jour au lendemain. L'accord de cessez-le-feu prévoit l'entrée de 600 camions d'aide et de marchandises chaque jour dans la bande de Gaza, soit autant qu'avant la guerre. Cela faisait 5 ou 6 mois que je n'avais pas reçu de colis d'aide alimentaire, raconte ce père de famille qui vient d'obtenir un sac de farine de 25 kilos. Une aide essentielle, poursuit-il. Je n'ai plus de travail à cause de la situation actuelle. Pour moi, trouver de quoi nourrir mes enfants ou subvenir à leurs besoins est un défi quotidien. Oui, en plus de l'aide humanitaire, les marchandises sont de nouveau disponibles. Mais on n'a plus de revenus. Comme lui, beaucoup de Gazaouis ont perdu leur emploi durant la guerre. Les bombardements ont détruit les maisons, les usines, les administrations. Avec l'arrêt des combats, l'activité reprend timidement. Durant les 4 derniers mois, j'ai complètement fermé mon commerce. Je n'avais plus rien à vendre. J'ai rouvert avec la trêve. Je vends des tomates, des choux-fleurs, des pommes de terre. Mais les prix restent encore très très chers. Rami Almeghari, Gaza, Sami Bourlefa, Jérusalem, RFI.
Et toujours sur le dossier de Gaza, le roi de Jordanie et le chef de l'État égyptien ont opposé une fin de non-recevoir aujourd'hui à la proposition du président américain Donald Trump de déplacer vers l'Égypte et la Jordanie les Palestiniens de Gaza. Pour le souverain jordanien, les Palestiniens doivent rester sur leur terre. Pas question de participer à une telle injustice, a martelé de son côté le président égyptien, qui a rappelé sa volonté d'établir un État palestinien, tout en se disant déterminé à travailler avec le président Trump pour parvenir à la paix sur la base de la solution à deux États. En Allemagne, le choc politique avec une première depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. La droite conservatrice et l'extrême droite ont adopté ensemble un texte anti-immigration au Bundestag. Une alliance impardonnable avait pourtant mis en garde le chancelier Scholz. Le chef de file de l'opposition, Friedrich Merz, a pourtant choisi donc de rompre le cordon sanitaire autour de l'extrême droite. Friedrich Merz est le grand favori des sondages pour devenir le nouveau chancelier à l'issue des élections législatives du 23 février prochain. Parallèlement, en Allemagne, le patronat était dans la rue aujourd'hui pour dénoncer la politique justement du gouvernement Scholz, alors que l'Allemagne est dans une très mauvaise passe économique avec des prévisions de croissance en berne. Et devant la porte de Brandebourg, aujourd'hui à Berlin, eh bien, 1 millier de personnes étaient rassemblées. Reportage Pascal Thibault.
Les souliers vernis et les manteaux chics sont nombreux. Les manifestants réunis au pied de la porte de Brandebourg ne ressemblent pas à ceux qu'on y voit d'ordinaire. Ils arborent des pancartes frappées d'un gyrophare orange pour cette journée d'action dans différentes villes allemandes baptisée SOS. Les orateurs le répètent presque tous, ce n'est pas tous les jours que les milieux économiques descendent dans la rue. Comprenez, l'heure est grave, comme le souligne la présidente de la Fédération des entreprises familiales, Marie-Christine Ostermann.
Il y a urgence dans tous les domaines. Toutes les données économiques sont dans le rouge. Notre pays est en récession depuis 2 ans. Tous les autres pays industrialisés enregistrent une croissance. Cela prouve que cette situation lamentable a été provoquée par la mauvaise politique économique de notre pays.
Les 140 organisations qui appellent à manifester réclament un tournant économique avec une énergie moins chère, moins d'impôts et de cotisations sociales, un soutien aux investissements et moins de bureaucratie. Le ministre de l'économie, le vert Robert Habeck, est la bête noire des manifestants. Les organisateurs affichent leur neutralité, mais les politiques présents sont des chrétiens démocrates et des libéraux. Pascal Thibault, Berlin RFI.
Toujours en Europe, sous la pression de Donald Trump et de ses annonces tonitruantes en matière de protectionnisme et ou d'investissement géant, notamment dans l'intelligence artificielle, eh bien, l'Union européenne adopte à son tour un cap résolument pro-business. Choc de simplification, baisse du coût de l'énergie. La patronne de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a ainsi dévoilé aujourd'hui sa feuille de route pour la compétitivité qui place désormais les entreprises au cœur de la relance pour l'Union pour les 5 ans à venir. On retrouve à Bruxelles Pierre Benazet. Bonsoir Pierre.
Bonsoir.
Et l'Europe entend ainsi, bien sûr, répondre au président américain et à son grand projet de ramener l'activité aux États-Unis en instaurant des barrières douanières.
Effectivement, il y a la menace que constituent les ambitions de Donald Trump, mais en fait, même sans cela, cette relance était devenue très nécessaire parce que l'Union européenne est en plein décrochage économique vis-à-vis à la fois des États-Unis, mais aussi de la Chine. Le premier pilier de ce plan européen très large, c'est donner une forte impulsion à l'innovation. Les cerveaux sont là, mais seulement un tiers des brevets enregistrés en Europe résultent en un produit commercialisé. L'UE veut créer l'environnement qui permettra aux jeunes pousses de se lancer ou de croître. Elle veut aussi pousser à l'utilisation de l'intelligence artificielle qui n'est utilisée que par 13% des entreprises européennes. Elle veut créer ce qu'elle appelle un 28e régime. L'idée ici est de contourner les obstacles à la création d'entreprises que posent les 27 législations nationales afin d'avoir un jeu de règles sur la faillite, le droit du travail, la fiscalité pour faciliter l'accès au marché européen dans son ensemble. Il y aura aussi ce choc de simplification avec l'abandon de nombre de règles pour faciliter la vie aux entreprises, ce qui s'accompagnera de la création d'un marché européen des capitaux parce que les entreprises ont du mal à attirer l'investissement privé. La Commission martèle que les objectifs de neutralité carbone en 2050 sont maintenus. C'est aussi l'intérêt de l'Europe pour elle. La décarbonation de l'économie est un investissement qui rapporterait une croissance de 2% de PIB sur la décennie à venir.
Pierre Benazet en direct de Bruxelles. Et on termine ce journal avec du sport. Il y a du foot ce soir avec la 8e et dernière journée de la première phase de la Ligue des Champions. Une soirée inédite dans l'histoire de la compétition. 18 matchs vont avoir lieu simultanément à 20h, temps universel, avec encore beaucoup d'incertitudes et notamment pour les derniers qualifiés pour les barrages. Et cela concerne le PSG, le Paris Saint-Germain. Bonsoir Cédric de Oliveira.
Bonsoir Véronique.
Vous êtes à Stuttgart en Allemagne où le PSG a donc un dernier effort à faire pour se qualifier.
Oui, un point au moins sans rentrer dans les scénarios alambiqués. C'est ce qui manque au PSG pour se qualifier et voir ces fameux barrages de la nouvelle formule de la Ligue des Champions. Et sur ce qu'on a vu la semaine dernière lors de la victoire face à Manchester City, il n'y a pas trop de raison de s'inquiéter côté parisien. Retrouver cette fougue, ce talent, cette efficacité qui avait permis de battre les Anglais au Parc des Princes. Une performance qui est quand même à relativiser. Si on prend l'ensemble de la campagne parisienne, ça ne fait que 10 points en 7 journées pour l'instant. Une 22e place provisoire. Et c'est insuffisant pour être tranquille avant cette dernière journée et ce déplacement à Stuttgart. Une équipe imprévisible qui est capable de perdre largement sur la pelouse de l'Étoile Rouge de Belgrade, mais aussi de battre la Juventus Turin. Stuttgart qui est vice-champion d'Allemagne en titre et qui pourra compter sur son public réputé comme étant un des plus chauds de la Bundesliga. Le club allemand qui lui aussi compte 10 points mais qui a une moins bonne différence de buts et qui tentera lui de ne pas perdre.
Et coup d'envoi du match à 21h.